Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec le Rav Elie Lemel. Bonsoir Rav Elie.
Bonsoir.
Bonsoir Rav Elie Lemel et Shabbat Shalom. On continue avec vous le survol de notre paracha comme on le fait avec un plaisir renouvelé toutes les semaines. Et donc on arrive aujourd'hui à Parashat Shmini. Alors Parashat Shmini est connue pour nous parler notamment de la mort de deux des fils de Aaron. Et on s'interroge un peu pourquoi des gens qui étaient aussi grands, connaisseurs, tzadikim, érudits, enfin bref, je vais évidemment faire la dracha à votre place. On se demande comment il a pu arriver un drame pareil. Et après aussi, il y a toute une réflexion sur l'alcool dans le judaïsme. Alors là, à Pessah et dans certaines fêtes, on a l'habitude, nous les juifs, on n'a pas peur de l'alcool normalement. Mais vous avez-vous décidé d'intervenir sur ce sujet-là?
Exact. Tout de suite après donc cet événement extrêmement tragique, la disparition de ces deux fils de Aaron, à propos desquels le verset dit « Bikravai et Kadesh », c'est-à-dire que Dieu dit « C'est par ceux qui me sont proches que je vais me sanctifier ». Donc c'est-à-dire c'est quelque chose de très très particulier qui se passe au moment de leur disparition. Rappelons-nous que on lit ce texte qui nous parle, alors pas de Shmini, dans Acharemot, de leur disparition le jour de Kippour. Donc c'est pas une histoire qui est banale. Mais tout de suite après, eh bien, il y a une injonction qui est donnée. Dieu parle à Aaron pour qu'il dise, et il lui dit, voici l'ordre, Yayin Veshechar Altesht, du vin, des boissons enivrantes, ne bois pas, toi, tes enfants, au moment où vous allez rentrer dans le sanctuaire. Et aussi, dit le texte, ou le Horot, et pour aussi être moré, c'est-à-dire pour donner un enseignement, mais dans la tradition juive, le Horot, c'est aussi pour dicter la loi, pour donner la loi, eh bien, il ne faut pas du tout avoir bu. Et donc, on a ici un texte quand même qui est très, très intéressant, parce que la Torah nous enjoint de faire attention à de ne pas boire avant de rentrer dans le sanctuaire pour faire la avoda, pour faire le travail dans le temple, et puis aussi quand on va donner une halakha, quand on va enseigner une loi. Bon, alors, vous allez dire, ça ne nous concerne pas, a priori. Hein. C'est pour les prêtres, et encore à l'époque du temple, et puis pour le Rav. J'aimerais peut-être réfléchir avec vous un petit peu plus longuement sur ce qui se passe ici. Tout d'abord, réfléchissons. Évidemment que l'on ne peut même pas imaginer un prêtre rentrer dans un état de totale ébriété au temple, parce que tout simplement, il serait incapable de faire ce qu'il doit faire. Il y a des lois qui sont très précises. On ne parle pas ici de quelqu'un qui doit juste... sans être d'une quelconque manière dévalorisant pour une profession de ce type, mais on n'est pas ici face à un maçon qui a des gestes plus ou moins répétitifs à faire. On est ici face à quelque chose quand même de très très particulier dans tous les détails. Donc si c'est un problème que techniquement parlant, il soit complètement sous, il soit incapable de faire son travail, est-ce que la Torah a-t-elle véritablement besoin de me le dire? De la même manière, imaginez que vous alliez voir un rave pour lui dire, écoutez, voilà, j'ai une question épineuse, et puis vous voyez que ce cher rabbin a abusé de la dive bouteille, évidemment qu'il ne nous viendra même pas à l'esprit d'être à l'écoute de sa réponse. Et en effet, la loi nous dit que, oui, bien sûr, ça concerne celui qui est complètement ivre, mais ça concerne celui qui a bu une petite quantité d'alcool. On est dit déjà à partir d'une certaine quantité d'alcool, c'est plus possible. Pourtant, vous me direz que certaines personnes tiennent très très bien l'alcool et n'ont aucun problème à parfois même un petit peu abuser de la bouteille et tout va bien pour eux. Et là, on a ici peut-être une ouverture sur laquelle il y aurait lieu de s'arrêter et de réfléchir. Au fond, vous savez qu'il existe ce que l'on appelle la problématique d'avoir un discernement qui est aboli. Alors, on en a vu les effets totalement pervers. Puisque quelqu'un qui aurait tué alors qu'il n'a pas son discernement ne serait pas considéré comme coupable avec tout ce que ça a pu impliquer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais quand on boit un petit peu, qu'on le veuille ou pas, on n'est sans doute peut-être pas en totale possession de ses moyens. Il y a peut-être un petit quelque chose au niveau de nos capacités cognitives qui n'est pas complètement là. Et la Torah nous dit, tu sais, quand tu rentres au Mishkan, quand tu rentres dans le Beth Amikdash, quand tu rentres dans le Temple, eh bien, ce que l'on attend de toi, c'est que justement tu sois totalement dans le discernement, que tu sois capable en effet de percevoir, de réaliser dans les détails exactement tout ce que tu es en train de faire. C'est ce que l'on attend de toi. De la même manière, lorsque l'on va te poser une question, eh bien, tu dois être capable de percevoir dans les détails, de manière la plus fine possible, la totalité de tout ce que l'autre est en train de te dire. Et là, peut-être qu'on va réfléchir autrement. Vous savez qu'il y a ce que l'on appelle Mikdash Me'at, le petit sanctuaire. Le petit sanctuaire, c'est chez nous à la maison. C'est en effet quand l'on rentre chez soi le soir et que l'on va être eh bien, à l'écoute de notre conjoint, de nos enfants, de la famille. Et peut-être que ici la Torah est en train de nous dire la chose suivante. Yaïn Vesherar, les boissons enivrantes, qui symbolisent ici au fond l'absence d'une totale concentration par rapport à la personne qui est en face de nous, que ça soit au niveau de ce que l'on doit faire ou au niveau de l'écoute que l'on doit avoir, eh bien, ça c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Comme si au fond la Torah était en train ici de nous ouvrir à l'idée suivante. C'est qu'en effet, lorsque l'on rentre chez soi à la maison, lorsque l'on est face à l'autre, il faut être totalement avec cet autre. Il ne doit pas y avoir un élément de nous-mêmes qui doit être à l'extérieur. Et je prends des exemples très simples et vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu puéril, mais ce n'est pas grave, j'assumerai. Quand tu rentres chez toi et que tu te rends compte qu'au fond, tu n'es pas totalement là parce que, eh bien, tout simplement, ta tête est prise par tes WhatsApp, par tes SMS, par toutes sortes de choses, eh bien, à ce moment-là, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, n'est pas quelque chose que la Torah valide. Pourquoi ? Parce qu'il manque une partie de toi-même. Or, lorsque l'on rentre dans le temple, lorsque l'on rentre dans ce sanctuaire de la maison, lorsque l'on est dans ce qu'on appelle sa avoda, c'est-à-dire son service, le travail que l'on doit faire qui est fondamental, lorsque l'on doit réfléchir à la problématique que l'autre nous pose, eh bien, c'est l'entièreté de nous-mêmes qui doit être présenté. Et peut-être qu'aujourd'hui, une des grandes difficultés que nous avons dans notre génération, c'est que l'on n'est plus véritablement totalement là face aux autres. Il y a généralement juste une fraction de nous-mêmes, une partie, parce que le reste est occupé, soit dans notre tête, soit tout simplement par des technologies qui sont là et qui nous empêchent d'exister pleinement au moment où on doit l'être dans toutes ces situations. Voilà déjà peut-être le premier point sur lequel ça nous concerne à nous aussi. Yayin Vesherar Altesh, c'est-à-dire fais attention à tout ce qui t'empêche d'être pleinement là lorsque tu te confrontes à quelque chose qui est essentiel, qui s'appelle le Beth Amikdash, qui s'appelle le sanctuaire, qui s'appelle ta famille, qui s'appelle le Horot, celui qui est censé être à l'écoute de l'autre pour pouvoir lui proposer une idée, une réflexion, un conseil et une parole. Et évidemment, sur la base de cela, on peut peut-être encore mieux comprendre quel est le rapport que la Torah a avec l'alcool. En effet, le Talmud nous dit la chose suivante. Elle nous dit « Zacha, si l'individu a le mérite, alors, eh bien, il y a marqué, en effet, vous savez, « Asafta de Ganchav Tiroshav Yitzarecha ». Il y a marqué que on ramènera chez nous le fruit de nos récoltes, de la vigne, des olives. Et ce qui est lié au vin, eh bien, s'appelle tirosh. Tirosh, c'est tout ce qui a trait à la vigne. Et le Talmud s'arrête sur ces mots et dit tirosh. C'est un mot que l'on peut entendre de deux manières, soit rash, soit roche. Rash, c'est le pauvre, mais pas le pauvre de celui qui n'a pas de l'argent, c'est, pardonnez-moi, au sens un peu péjoratif du terme, le pauvre type, quoi. C'est-à-dire la personne, ben voilà, il fait du n'importe quoi, hein. Il pète dans sa Rolls, mais c'est le pauvre type, quoi, qui n'a pas compris grand-chose. Et puis, Roche, c'est celui qui est à la tête. Et les maîtres du Talmud s'arrêtent et disent, Tiroshra, Rash, Roche, les deux mots peuvent se lire. Et ils nous disent, en effet, Zaha, s'il a le mérite, alors Naase, Roche, il peut devenir à la tête. Lo Zaha, s'il n'en a pas le mérite, Rash, eh bien, ça devient justement ce fameux, entre guillemets, pauvre kippé. C'est quoi cette notion de Zaha? Et Rashi nous dit, Zaha liftot le fimida. S'il a le mérite de savoir boire le fimida exactement suivant la bonne mesure, être à la bonne mesure. Et le mot Zaha vient de la racine Zar, qui veut dire raffiné, le raffinement. Si en effet l'homme face à l'alcool comme à d'autres choses est quelqu'un de raffiné et comprend qu'il y a une mesure pour tout, alors dans ce cas-là, en effet, Naseros, il devient ici quelqu'un qui est à la tête parce que justement, il a révélé dans son rapport à toutes ces choses qui peuvent l'empêcher d'être pleinement présent, ô combien il dirige sa vie avec sa tête. L'Ozaha. Mais si malheureusement, il ne fait pas preuve de ce raffinement, de cette réflexion, alors en effet, il ne le fait pas, le Fimida, il ne le fait pas avec mesure. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est ce rash, c'est-à-dire au sens... pas très joli du terme, mais j'aime pas utiliser ces mots, ça devient un peu ce pauvre type, cette personne qui est un petit peu à côté de l'histoire qu'il doit vivre. Et c'est un petit peu cela par rapport à toutes ces choses qui en effet nous empêchent pleinement d'être là. Zaha, si on est suffisamment raffiné pour être le Fimida, d'utiliser tous ces éléments qui nous empêchent d'être pleinement là, si on sait les utiliser à bon escient, oui, portable, on va un peu l'utiliser, on en a besoin. Mais savoir que, Atkan, jusque-là, comme la personne qui, en effet, Shabbat, va boire son petit verre de boucha ou de vodka suivant ses origines, oui, en effet, c'est quelque chose qui donne une dimension qui gaieté, sympathique, mais je reste totalement maître de moi-même. Ça n'est pas quelque chose qui m'empêche d'être pleinement moi, comme c'est technologique, comme tout le reste. Alors, dans ce cas-là, en effet, Roche, il devient à la tête, il montre en vérité combien il est grand, parce qu'il a décidé que c'est sa tête qui dirige. Donc, comme vous voyez un petit peu ce texte dont on pourrait penser qu'il s'applique exclusivement aux Kohanim et aux maîtres, eh bien, nous parle énormément et à nous de savoir dans nos temples miniatures garder cette leçon de manière extrêmement claire, de rentrer dans cette dimension du Zaha, c'est-à-dire dans cette dimension de raffinement, d'élégance, de subtilité qui démarre d'abord sur le fait que c'est notre tête qui gouverne, et d'être pleinement là où on doit être pour pouvoir vivre totalement ce qu'Hachem attend de nous et ce dans tous les domaines.
Vous savez, je vais parler de moi. Je me suis rendu compte un jour que très souvent, le premier geste que je faisais le matin, c'était de regarder mon téléphone. Et je me suis dit, moi j'utilise avec vous, puisque je parle de moi, tout à fait le mot de pauvre gars, quoi. Quand, si vraiment, le matin, la première chose que tu fais, si tu regardes ton écran, t'as...
Évidemment, alors, très intéressant que vous dites, je me suis rendu compte que je faisais la même chose que vous, il y a quelques années de cela, et j'ai décidé, je me suis dit, eh bien non, je prends sur moi de ne pas du tout regarder mon téléphone, enfin, je le regarde dans le sens où j'éteins le réveil, mais de ne pas ouvrir un message quelconque, de ne rien regarder avant la fin de l'office. Comme samedi soir, ne rien faire avant d'avoir fait l'Avdallah, et même après l'Avdallah, peut-être attendre encore un quart d'heure, une demi-heure. Et en vertu d'un principe très simple, c'est que si vraiment les gens ont besoin de nous joindre pour une raison extrêmement urgente, je vous garantis qu'ils appelleront. Et je comprends, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Pour certains, c'est du domaine de l'évidence, et je suis en admiration face à ces personnes qui, d'elles-mêmes, l'ont toujours fait. Et puis parfois, on prend ces mauvaises habitudes, et bien c'est tout bête, hein, mais une fois que vous l'avez pris, une fois que vous exigez ça un petit peu de vous-même, et bien... on se rend compte qu'on rentre nous aussi un tout petit peu dans cette dimension de raffinement et ça fait beaucoup de bien.
Magnifique, magnifique. On va essayer de s'y tenir. Et pas à table non plus. Surtout quand on est face à un. On voit le gars qui connaît, qui l'a déjà fait,
écoutez,
malheureusement.
On a tous les mêmes difficultés, vous savez. Essayons d'imaginer que vous êtes à table et que brusquement vous avez quelqu'un qui arrive et qui commence à vous parler et que vous arrêtiez de parler aux personnes qui sont en face de vous. On vous prendrait pour un goujat et un malotru. Alors pourquoi? Parce que l'autre arrive via un téléphone, il aurait brusquement droit de préséance par rapport aux personnes qui sont en face de nous.
Rav Eli Lemel, merci, on vous écoute de toute façon toujours avec le même délice chaque vendredi après-midi sur Radio Shalom. Je vous souhaite une bonne soirée et Shabbat Shalom. Bonsoir à vous, Rav Eli Lemel.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem à présent. On retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat Shalom.
Shalom, Shalom, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. On continue notre réflexion sur Parashat Shmini. Et c'est vrai que cette paracha est quand même surtout connue, bon, comme d'habitude, beaucoup de choses, mais c'est là où on apprend les règles de la cacheroute, les fameuses nageoires. Et cette paracha dit, il n'y a que quatre sortes d'animaux qui n'ont qu'un des deux éléments nécessaires pour qu'une bête soit cachère, et puis qu'il n'y en a qu'un. Je ne vais pas faire la paracha va de place Rav Mordechai. Mais bon, voilà, il y a quatre qui n'ont qu'un seul élément. Vous allez nous expliquer tout ça. Et ça pose deux questions, en fait. Parce que comment la Torah prend le risque de dire qu'il n'y en a que quatre sur toute la planète ? C'est-à-dire, ça, on peut être démenti, mais du jour au lendemain. Et on ne l'a pas été depuis 2000 ans. Et ça pose ensuite la question de fond. Bah, pourquoi ces quatre animaux ?
Absolument. Alors, d'abord pour répondre à la première question, effectivement, la Torah prend ici un risque. Et d'ailleurs, la Gemara dans Chulin nous dit qu'elle pose la question, est-ce que Moshe Rabbeinu, qui a écrit la Torah, était un chasseur ? Est-ce que c'était un archer ? Est-ce qu'il a visité le monde entier, sous-entendu ? Est-ce qu'il a fait de la plongée sous-marine ? Est-ce qu'il est parti escalader les montagnes, visiter les vastes steppes de l'Asie lointaine ? Comment pouvait-il être aussi certain qu'il n'y avait que quatre éléments ? Et la Gemara répond en disant qu'il y a ici une preuve de l'origine divine de la Torah. Donc il y a un premier élément qui est ici un élément de défi. Il y a de nombreux chercheurs qui ont cherché à relever ce défi, alors qui parfois ont trouvé un animal qui semblait défier cette règle-là, mais ça n'a jamais été le cas, et pour l'instant on en est toujours au même point. On n'a pas trouvé d'animaux capables de défier cette règle. Donc il y a ici, nous dit la Gemara en tout cas, une preuve de l'origine divine de la Torah. À réfléchir. Deuxième point, on a demandé également pourquoi précisément ces quatre animaux. Alors, pour répondre à cette question, il faut dire trois choses importantes. D'abord, c'est que les règles cacheroutes de la Torah n'ont aucun rapport avec la science, le bien-être, la nutrition. On a beaucoup dit que le cochon était un animal sale et que c'était un animal ou que, par exemple, mélanger le lait et la viande était cancérigène, etc. Si c'était le cas, eh bien, ça serait mauvais pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, ça n'est absolument pas... C'est faux. Les règles de la Torah ont d'abord une origine spirituelle, ce qui les situe dans l'univers du roc, c'est-à-dire de ces lois qui n'ont pas de lien direct avec l'esprit humain. C'est une pure émanation de l'esprit divin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces interdits s'incarnent dans un interdit matériel. Il y a des animaux qu'on ne peut pas manger, mais la source spirituelle est une source qu'il faut étudier. Et les commentateurs, notamment le Rakhanati, qui est un auteur kabbalistique, se penche sur les raisons et donc explique, on va le voir ici, on va l'expliquer. Troisième point aussi, pour bien le comprendre aussi, il faut faire l'hébreu. D'accord, la traduction française, évidemment, est impuissante à nous rendre la richesse du texte de la Torah. Traduction, trahison, traductore, traditore. Et donc ici, il faut se référer à l'hébreu pour bien comprendre les rémésimes, les allusions qui sont contenues. Et c'est ce que nous allons faire immédiatement. Ces quatre animaux sont donc... Le chafan. Alors le chafan, c'est un animal qu'on a beaucoup de peine à le traduire. On a des photos du chafan, hein, une espèce de rat des champs, on va le dire comme ça. Mais c'est un animal qui a longtemps fait l'objet de discussions. En tout cas, le chafan. Le deuxième, c'est le gamal, c'est le chameau. Le troisième, c'est le chazir, donc le cochon, et la arnevet. Également là, le lapin, tu vois, le lapin, le lièvre ou les animaux de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces animaux ? Ils ont un seul signe de cacheroute. Le chazir, le porc, a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. Par contre, les trois autres animaux, y compris le lapin, comme on l'a prouvé scientifiquement, sont des animaux ruminants, mais par contre, ils n'ont pas les sabots fendus. Donc, ils ont un seul signe. Alors maintenant, à quoi ça nous renvoie ? Nos sages, nous disent le Rakhanati, nous disent qu'en fait, ces quatre animaux sont une allusion aux quatre empires dans lesquels les Bnei Israël ont été exilés tout au long de l'histoire. Le chafan, c'est une allusion d'abord à une faute qui est la faute de la Avodah Zarah. Oui, d'abord, première chose, ils sont une allusion aux trois grandes fautes majeures interdites par la Torah. Par exemple, la faute de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie, concerne le chafan. Pourquoi ? Parce que le chafan, ça nous renvoie à la racine chez Panna, c'est-à-dire qui a dévié de sa route pour aller vers la Avodah Zarah. Ensuite, appel le gamal, fait appel aux interdits sexuels parce qu'il fait appel à la notion de gomel chesed, quelqu'un qui fait du chesed. Or, comme on le sait, et il est marqué dans la liste des interdits des relations sexuelles que certaines interdits sexuelles sont considérées comme chesed. C'est une espèce d'acte de bonté, mais dévoyé. C'est une espèce de générosité dévoyée. Ensuite, après le chazir, lui, fait référence au meurtre. c'est-à-dire Almish et Irzir et Adam Leafar, celui qui ramène l'homme à la poussière. Et l'Arnevet, nous dit le lapin, donc nous dit le Rakanati, a cette fois-ci, elle, plusieurs listes, une longue liste d'allusions que je ne peux pas citer ici, mais sur laquelle on se penche là-bas dans le Rakanati. Deuxième point, ces animaux font aussi appel, donc, comme je l'ai dit, aux grands empires dans lesquels les Béné Israël vont être exilés. Alors, il y a trois empires qui sont l'empire de Babylonien et l'empire Mède, qui font référence donc au Gamal, c'est-à-dire au Chafan, pardon, et au Gamal, donc qui sont des animaux ruminants, et également la Arnevet, qui fait référence à l'empire grec. Par contre, le Khazir fait référence à l'exil de l'Empire romain, c'est celui dans lequel on est encore aujourd'hui, qui est consécutif à la destruction du Second Temple. Alors pourquoi ? Les deux autres sont des animaux, les trois autres exils sont des exils dont les Bnei Israël vont revenir. Les Bnei Israël sont revenus de l'exil babylonien, ils sont revenus de l'exil Mède, ils sont revenus en Eretz Israël. Les Bnei Israël se sont défaits de l'exil grec. Les Grecs nous ont colonisés en Israël, on a réussi à s'en débarrasser. Et ils sont incarnés par des animaux qui ruminent, comme pour nous dire en quelque sorte qu'un animal qui rumine, c'est un animal dans lequel il y a un aller-retour dans la nourriture qu'il avale et la nourriture qu'il réingurgite par la suite. Alors, c'est la même chose, la terre d'Israël a craché en quelque sorte les Bnei Israël, mais ensuite après les a acceptés en retour. Par contre, l'exil de de Rome, la destruction du temple il y a 2000 ans par Rome et l'exil dans lequel on se trouve encore aujourd'hui puisque le temple n'a pas été reconstruit, il est comparé au Khazir. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, nous disent nos sages, le Khazir va être Marzir, il va remettre la couronne sur la tête du Mashiach, ce sera lui qui accueillera le Mashiach. À la fin de cet exil, eh bien, il y aura une acceptation de la royauté de Dieu et de la royauté d'Israël et la royauté du Mashiach. Troisième point, et non des moindres, si on observe bien les règles de cette paracha, on s'aperçoit que la Torah va nous permettre 10 animaux à la consommation. Je ne parle pas ici des oiseaux ou des poissons, mais des animaux terrestres. Il y aura 10 animaux, 3 qui sont des béhémotes, c'est-à-dire des animaux domestiques, et 7 qui sont des animaux des champs. Et nos sages nous disent que ces 10 animaux viennent en regard des 10 commandements de la Torah et des 10 paroles dans lesquelles avec lesquelles donc Hachem a créé le monde. Alors qu'est-ce qu'on vient de nous enseigner dans cette correspondance entre ces 10 animaux permis par la Torah, ces 10 commandements et les 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde comme cela est enseigné dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos Pères? Eh bien, la correspondance est la suivante. C'est pour nous dire que lorsque le juif mange ces animaux dont la source spirituelle est une source permise aux juifs, il participe au tikkun, à la réparation du monde. Par contre, lorsqu'il va manger des animaux qui sont tamés, qui sont impurs, c'est-à-dire qu'ils sont d'une source spirituelle qui n'est pas adéquate à la neshama et au travail que le juif doit faire dans ce monde, au contraire, il empêche la réalisation de la Torah, la venue du Mashiach, la délivrance, il empêche le monde d'avancer vers son terme ultime. Alors, comment ça se fait ? Comment se fait-il que ça puisse passer par la nourriture ? Tout simplement parce que, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, la nourriture, la ta'ava de la achila, l'envie de manger, c'est le besoin le plus fondamental et le plus quotidien. Or, on sait que la Torah exige de nous un effort dans le domaine de la vie pulsionnelle. La Torah ne nous demande pas de réprimer nos pulsions. Elle nous demande de les accompagner, de les diriger, de les emmener vers un but constructif. Manger, c'est magnifique de manger. C'est bon de manger. On mange Shabbat, on mange pendant les fêtes. On a mangé de la matzah, on a mangé des repas magnifiques pendant les fêtes. Shabbat, là, bientôt, dans quelques heures, on va manger des repas magnifiques. Dans la semaine, on mange, on fait le Birkat Amazon. C'est magnifique de manger. D'accord ? Mais c'est accompagné d'une vie pulsionnelle. Et la Torah nous demande de diriger, de sublimer, d'organiser, de canaliser nos pulsions. Et donc, lorsqu'un homme mange ce que la Torah lui permet de manger, c'est un peu comme s'il disait « j'accepte que mon univers pulsionnel soit dirigé, encadré et emmené vers des buts sublimes et qu'il reflète une vie spirituelle ». Et c'est donc ainsi que lorsque quelqu'un respecte les lois de la cacheroute de la Torah, il imprime dans son nefesh, c'est-à-dire dans son fonctionnement primordial, dans la partie primordiale de son âme, des règles spirituelles, notamment la base de toute règle spirituelle, qui est de savoir mettre une certaine distance entre le besoin et la réalisation du besoin. Est-ce qu'il faut rappeler ici que quand on mange, avant de manger, on va conclure avec ça, on dit une bracha, une bénédiction. Bracha, c'est les mêmes lettres que Bechor, premier-né, premier. Et en fait, c'est un peu comme si la première pulsion qu'on avait, on l'a donné d'abord à Hachem pour ensuite pouvoir profiter du monde dans lequel il nous a, ce monde magnifique dans lequel il nous a permis de vivre. Rappelez également que la racine de bracha, bénédiction, c'est bet, resh et chaf, et je renvoie les hébraïsants qui écouteront cette émission au fait que bracha, ça veut dire bénédiction, et on le voit dans le mot lui-même, puisqu'il est formé de bet, resh et resh, bet, resh et chaf, pardon, bet, c'est à la valeur numérique 2, et c'est le double de la lettre qui le précède dans l'alphabet, qui est le alef. Le resh, ça a une valeur numérique de 200, et ça suit la lettre kouf dans l'alphabet hébraïque, qui a une valeur numérique de 100, et le chaf a une valeur numérique de 20, et il suit le yud, qui a une valeur numérique de 10 dans l'alphabet. Alors, pour nous dire que quand on multiplie par 2, c'est le minimal de la multiplication, eh bien, on obtient une multiplication. Multiplié par 0, ça fait la tête à Toto, comme on disait à la récréation avant. Multiplié par 1, ça ne fait rien. Mais multiplié par 2, c'est le début de la multiplication. Et on vient nous dire ici que lorsqu'on fait une bracha, lorsqu'on donne cette première pulsion, en quelque sorte, à Hachem, alors on multiplie. Qu'est-ce qu'on multiplie ? Un potentiel spirituel. Et on multiplie cette capacité qu'on doit avoir d'utiliser intelligemment ce monde magnifique dans lequel on vit. Dernier point également, j'en aurais conclu avec ça. Dans le prophète Daniel, il est bien rappelé que le roi Nabucodonosor avait rêvé d'une statue. Les pieds de cette statue étaient en argile et en fer et se divisaient en 10 doigts de pied, en quelque sorte. Et tous les commentateurs rappellent qu'à la fin des temps, le dernier exil dans lequel nous serons sera divisé en 7 royaumes qui sont des royaumes de l'Édom et 3 qui sont des royaumes de l'islam. Alors aujourd'hui, cette démultiplication est un peu plus large, mais c'est l'idée, le principe. D'accord, c'était qu'il y a 3 principes dans l'islam, 7 principes dans le monde occidental qui s'incarnent dans des royautés et dans des pays, et qu'à la fin, donc, tout ça va se morceler, qu'à la fin, donc, le Mashiach va surgir de ce grand désordre. Voilà les rémésibles, les allusions qui sont incluses donc, dans ce texte-là, qui fait référence à ces 4 animaux qui sont, donc, nous dit la Torah, les seuls à avoir un seul signe de cacheroute. Voilà, à toutes et à tous, Shabbat Shalom, et que Hachem nous permette de toujours manger cacher.
Amen. Amen. Rav Mordechai Biton, merci pour ces quelques paroles. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chah, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On continue notre étude de la paracha de cette semaine. Et la paracha s'appelle Shmini, donc le huitième. Et il se trouve que dans le judaïsme, 8, c'est au-delà du naturel. Semaine fait 7 jours. Toute une série de choses, la création. 8, c'est au-delà. Mais au-delà, mais de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Voilà, c'est l'irrationnel. On est dans la paracha, j'appelle ça la paracha de la huitième dimension. On est dans la paracha de l'irrationnel. C'est pour ça que le titre de la paracha, c'est le huitième jour, alors qu'on sait très bien quelle date c'était. C'était le premier jour du mois de Nissan, la date de l'érection du tabernacle. Mais la Torah choisit de l'appeler ce jour-là le huitième jour, un peu comme pour nous dire, sachez que cette paracha, vous allez la lire et vous allez sortir en disant « j'ai rien compris ». Alors, pourquoi j'ai rien compris ? Alors, pour autant, hein, vous savez, Bernard, hein, quand on comprend rien, on essaye quand même de comprendre. On essaye de farfouiller. Mais enfin, faut savoir qu'on va être très, très limité dans notre compréhension de cette paracha. Il ne se passe que des choses incompréhensibles. Alors, première chose incompréhensible qui se passe, c'est que Moshe, Aaron et tout le peuple ont fait vraiment tout ce qu'il faut, comme il faut, comme c'était écrit sur le papier. Ils ont suivi le mode d'emploi à la lettre pour l'érection du Mishkan. On arrive, c'est la fête, tout le monde est réuni, les corbanotes sont réunis, c'est un jour de joie. Enfin, c'est le premier jour où le Mishkan va établir ce trait d'union entre le ciel et la terre, déjà qui en soi est irrationnel. Mais bon, Dieu a dit que ça allait fonctionner comme ça. Ils ont tout fait comme il faut et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, on va voir ce qui va faire que ça marche à la fin. Donc, des fois, voilà, nous aussi, on fait tout comme il faut, on fait nos prières et des fois, on fait des efforts en plus et on fait ce qu'il faut faire. En tout cas, on a le sentiment de faire ce qu'il faut faire et il n'y a pas de résultat. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Ensuite, il y a l'incompréhensible absolu dans cette paracha. la mort tragique des deux fils de Aaron. Alors, nos sages vont essayer de comprendre hein, ce jour de fête, ce jour de l'érection du tabernacle, comme s'il ne fallait pas que ça se passe parfaitement, qu'il fallait qu'il y ait une ombre au tableau, et ça va être terrible et tragique, ces deux Cohen Gadol qui, en plein dans leur fonction, parce qu'ils ont eu un élan, on va dire, spontané, de lien avec Hachem. Enfin, il y a de multiples explications, mais il n'en reste pas moins qu'on assiste ici à une mort absolument tragique de deux tzadikim dans leur fonction, dans leurs habits de Cohen Gadol. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, c'est évident. La Shoah, c'est l'innommable, c'est l'impensable, c'est l'indicible. Et bien, ces 6 millions de personnes que nous commémorons le jour du Yom HaShoah, c'est rien d'autre que 6 millions de Kohen Gadol, de Kohanim Gdolim, en habit de Kohen Gadol, qui partent tragiquement, sans aucune raison, et qui nous laissent avec un point d'interrogation, avec une question insoluble, qui, je pense, n'a pas de réponse, qui n'a absolument aucune réponse. Et c'est juste qu'on doit continuer à cheminer dans notre Torah et dans notre quête, d'intelligence, de compréhension, etc., tout en ayant ce trou, cet espace vide qui est ici symbolisé par Nadav et Avihu, donc les deux Kohen Gadol, deux fils de Aaron, qui partent en plein dans leur service et à la fleur de l'âge. Et puis, continuons, ce mini, c'est encore l'irrationnel, c'est encore l'incompréhensible, parce que c'est des lois de cache-route. Et les lois de cache-route, par définition, on peut essayer de comprendre qu'en effet, les animaux que nous mangeons sont tous des animaux qui ne sont pas féroces, sont tous aucun n'est carnivore, etc., etc. Ce sont de belles explications, il n'en reste pas moins que la cache-route relève du roc, de l'irrationnel, et que Dieu nous demande, parce qu'on est son peuple, de manger cachère. Donc voilà, du début à la fin de la paracha, nous sommes dans une interrogation, dans de nombreuses interrogations. Il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas, mais continue d'avancer. Alors je voudrais revenir sur le début de la paracha, où ça ne fonctionne pas, et on a ce tabernacle, et on a une grande fête, et pendant 7 jours, souvenons-nous, hein, la veille de ce 8e jour, il y en a eu 7 avant. Pendant 7 jours, il y a des corbanotes qui sont amenés, il y a les princes des tribus qui donnent des… Enfin, il y a vraiment… La fête a commencé parce qu'on est convaincu, Dieu nous l'a dit, le tabernacle va commencer à rentrer en fonction le premier Nissan, et Dieu va envoyer des flammes, un feu qui va consumer les sacrifices qu'ont apporté les Kohanim, mais ça ne marche pas. Alors j'ai redécouvert deux rachis extraordinaires que je voudrais partager avec vous pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se joue ici quand ça ne fonctionne pas comme il faudrait que ça fonctionne. Ça nous arrive tellement souvent, et surtout voilà, dans tout ce qui est lié à la spiritualité, on a l'impression qu'on a un mode d'emploi, et puis que si on fait ce qu'on doit faire, je ne sais pas moi, notre prière, qu'on se comporte comme on doit se comporter, etc., eh bien automatiquement il y aura un résultat. Et bien sûr, dans le domaine du spirituel et du divin, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors quand le feu va descendre du ciel, ce verset, c'est le verset 24 donc du chapitre 9, est précédé d'un autre verset qui dit que c'est Moshe et Aaron ensemble qui pénètrent dans la tente d'assignation. Et c'est un très beau verset, il ressort de la tente d'assignation, et là, Vayevarchu et Ha'am, à ce moment-là, ils bénissent tout le peuple, et on dirait qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, le kevod de Dieu, c'est-à-dire l'honneur de Dieu, pour ainsi dire, est présent, tout le monde le sent, et on sent que ça commence à fonctionner, que ce Mishkan est en train vraiment de rentrer en fonction. Alors, que dit Rashi ici ? Il dit, pour l'un et l'autre de ce duo-là, j'appelle ça le duo extraordinaire, Moshe et Aaron, l'un qui est leadership, l'autre qui est le Cohen. Eh bien, ce duo, c'est extraordinaire. Regardez ce que l'un et l'autre pensent à ce moment-là. Alors, pendant les 7 premiers jours d'Irachi, le temple, le Mishkan, donc, est érigé, et l'Osharta Boshrina, c'est-à-dire, bien, il n'y a pas de présence divine, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est tout Israël qui réagit. Ils ont honte. Ils s'adressent à Moshe, ils lui disent « Moshe Rabbeinu, tout ce que nous avons œuvré pour qu'il y ait la Shrina, donc la présence divine dans cet endroit, et que l'on sache enfin qu'on a été pardonné de la faute du veau d'or, rappelons-nous que la faute du veau d'or a précédé cet événement, eh bien, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on n'a pas été pardonné. Et ce que répond Moshe est extraordinaire. Il leur dit « Aharon achi, kedai vechashuv mimeni ». Sachez qu'Aaron, mon frère, a beaucoup plus de valeur que moi. Et lui, quand il apportera ses korbanot, le huitième jour, là, ça fonctionnera. C'est-à-dire que Moshe se dit « C'est de ma faute. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas la personne qu'il faut. Aaron, ça fonctionnera. » Et juste à côté, Rashi sur le verset qui précède, nous dit qu'Aaron pense exactement la même chose. C'est-à-dire que quand Aaron rentre, pénètre dans le Mishkan et que ça ne fonctionne pas, il dit « Je sais pourquoi, c'est parce que Dieu m'en veut, c'est à cause de moi qu'il n'y a pas la Shrina, parce que j'ai participé, et oui, j'ai dû participer au veau d'or, enfin j'ai essayé de gagner du temps, mais j'ai été malheureusement et malgré moi dans cette histoire du veau d'or, et c'est sûrement à cause de moi, et j'en ai très honte », dit Aaron à son frère Moshe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bien, à ce moment-là, Aaron dit « c'est de ma faute », Moshe dit « c'est de ma faute », et puis finalement, ils rentrent tous les deux ensemble dans la tente d'assignation, et c'est là que ça va fonctionner. Et je crois que c'est un clin d'œil extraordinaire du verset, quand on regarde en détail ce qui s'y joue. Si chacun d'entre nous pense qu'il a un pouvoir, pense que, eh bien, on a le mode d'emploi et ça fonctionnera, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est que dans l'association de deux personnes qui se voient fragiles et manquantes que la Shrina peut arriver. Et ça m'a fait penser tout simplement à la Shrina qui se pose sur une roupa. Quand il y a deux personnes qui s'unissent sous cette roupa, eh bien, pour que la Shrina, et c'est vraiment exactement comme dans la tente d'assignation, Shrina vient et se pose sur ce couple et accompagne ce couple dans sa route, eh bien, il s'agit de deux personnes manquantes d'une certaine façon, non pas qui viennent pour vivre mieux avec le mariage, mais qui viennent parce qu'elles accéderont à une certaine hauteur de par la présence de cette autre personne en face d'elles, qui a certainement des qualités qu'elles n'ont pas. Et donc, c'est dans cette complémentarité extraordinaire que vient se poser la Shrina. Et là aussi, je crois qu'il y a une complémentarité fabuleuse entre Moshe et Aaron, une humilité fabuleuse de l'un et de l'autre. Et puis surtout, je crois que le message ici, c'est ne soyez pas dans la culpabilité abusive en vous disant « c'est de ma faute, j'aurais dû, j'aurais fait autrement ». Nous ne sommes pas dans les comptes de Dieu. Nous ne savons pas comment fonctionne le lien entre le ciel et la terre. Ici en bas, nous sommes invités à faire des mitzvot, à nous améliorer, à grandir. Et puis des fois, voilà, il y a un résultat immédiat, des fois, il n'y a pas de résultat immédiat. Mais ce qu'il faut faire, c'est toujours être dans le lien et dans l'association avec d'autres personnes. C'est ce que je lis ici, pour que puisse venir la Shrina. La Shrina, elle vient quand nous sommes les uns avec les autres, quand nous nous lions, quand nous nous unissons les uns aux autres. Et avec nos forces conjuguées, la Shrina peut arriver parmi nous, dans le peuple, sur le temple, dans nos synagogues, dans nos maisons.
Je me suis toujours demandé c'était quoi Shrina en fait. Alors souvent on traduit par la grâce, qui est très bien d'ailleurs la grâce. C'est vrai, ce truc inexplicable que quelqu'un possède, pas d'autre, des moments, des endroits. Je me demande aussi si c'est pas le charme. Peut-être que on dit chen en hébreu.
Alors charme. Oui, mais alors la Shrina, le mot est extraordinaire. Hein. Shrina, on traduit souvent par présence divine. En fait, c'est la contraction de deux mots. C'est shachen ya. Shachen, c'est un voisin. C'est-à-dire, c'est la façon à travers laquelle on peut devenir voisin de Dieu.
Wow.
Je trouve ça assez extraordinaire. Qu'on dise que nous sommes voisins de qui t'es voisin ? Tiens, t'as déménagé, t'es voisin de qui ? Moi, je suis voisin de Dieu.
Ah bah tiens.
Voilà, rien que ça.
Je suis de la famille.
Rien que ça.
Mais on est de la famille.
C'est ça, Dieu, il dit, mais moi, j'ai envie de venir, mais juste, est-ce que vous êtes prêt à m'ouvrir la porte ?
Ouais. On le sent des fois.
C'est le rapide. Le rabbi de Kotz avait ce mot, il disait « Vous cherchez Dieu, je vais vous dire où il se trouve, là où vous le laissez pénétrer. »
Oh, elle est belle. Maria Chadré, merci.
Voilà.
Vous êtes chaleureusement invité à revenir la semaine prochaine pour nous dire des choses aussi belles que celle-là. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à tous. Un très beau Shabbat. Et monter.
à tous, on se retrouve pour notre chronique Une histoire pour Shabbat. Un jour, il y avait un jeune homme qui étudiait à la Yeshiva, c'est l'école talmudique, qui était de bonne famille, qui était religieux, qui était très bien élevé et qui n'avait pas l'habitude d'enfreindre les règles. Et un soir, il eut comme ça une envie soudaine, il avait très envie de sortir de la Yeshiva, alors qu'il y avait un couvre-feu, pour acheter une pizza dehors, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'était interdit de sortir de la Yeshiva. Donc, il prend cette idée, il la garde dans le coin de sa tête, sans pour autant la réaliser. Et à un moment, durant la soirée, un de ses amis vient le voir en lui disant « Dis-moi, je sais pas pour toi, mais j'ai très envie de sortir m'acheter une pizza. » Et là, le jeune homme le regarde et se dit « Regarde, j'ai eu la même idée, c'est que, quelque part, il y a quelque chose de légitime si on est deux à avoir eu la même idée. » C'est que c'est pas si terrible que ça d'aller acheter une pizza. C'est que ça convient dans les mœurs, donc... Bon, c'est légitime. Donc en réalité, viens, on y va. Et donc les deux se sont motivés ensemble. Ils ont enfreint le couvre-feu, ils sont sortis, ils ont acheté une pizza, ils sont revenus. Bon. Quelques jours après, ils ont de nouveau envie d'enfreindre une petite règle, mais chacun de leur côté. Et lorsque l'un en parle à l'autre, alors ils se disent « Ah bah, si l'autre y a pensé aussi, c'est légitime. Bon, alors viens, on le fait. » Et jusqu'à ce que, malheureusement, un jour, ça arrive en gradation, avec un effet boule de neige, et ils commencent à enfreindre des choses bien plus importantes, jusqu'à se faire attraper et sanctionner. On voit dans la paracha de la semaine que Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, ils ont emmené un feu étranger dans le temple, dans le sanctuaire, et c'est pour ça qu'ils ont été dévorés par un feu ardent par Akadosh Baruch Hu et qui sont niftar, qui sont décédés. On se pose la question, comment les fils d'Aaron, deux grands tzadikim comme ça, ils ont pu faire une telle faute? Et bien ça s'explique grâce à notre histoire. C'est justement, l'un avait eu l'idée et l'autre aussi, et donc ils se sont parlé entre eux, ils ont dit bah, si tu as pensé comme moi, c'est que c'est légitime, c'est qu'en réalité il n'y a pas un si grand problème. Et donc, ils se sont motivés ensemble et ils sont allés le faire. De là, on voit l'importance de ne pas se faire influencer. Parce que le problème de l'influence des autres, c'est qu'on ne se rend pas compte parfois si c'est bien ou mauvais. Et notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, c'est toujours une petite voix dans la tête qui nous dit « C'est pas si mal que ça, c'est pas si grave que ça, tu en as envie, ça va te faire plus de bien que ça peut t'apporter du mal. Mais non, regarde, il a pensé comme toi, alors c'est légitime. » Et c'est ça qui va essayer de nous perturber et nous faire enfreindre des règles qu'on ne devrait pas enfreindre. Et même mieux, qu'on n'enfreindrait pas à la base. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avec ceux avec qui on reste, ceux avec qui on traîne, ceux avec qui on discute, ceux qui peuvent nous influencer pour essayer de toujours être dans la bonne voie. Shabbat shalom à tous.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy ben.